Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport, le samedi, le dimanche de 9h à midi, avec ce matin Denis Charvet, Philippe Saint-André, Fred Weiss, Simon Dutin. Dans quelques instants, mes amis, le bras de fer autour de l'Olympique Lyonnais, le football français doit-il tout faire pour sauver l'OL et vous n'êtes pas d'accord. 10h30, la punchline des GG. Nous allons reparler évidemment de cette finale du top 14. L'UBB veut sa revanche ce soir après la claque reçue il y a un an face au Stade Toulousain. Le sentiment de revanche, est-ce le meilleur moteur? Je vous poserai cette question. Et puis 10h45, vous prenez les commandes de cette émission. Enfin, si vous le désirez, si vous arrivez à convaincre ceux qui votent sur le compte X des grandes gueules du sport, vous nous proposez un débat. 20 secondes pour nous le vendre, ok? Simon Dutin, tu veux parler de quoi ce matin?
On a appris il y a deux jours que Kylian Mbappé attaquait le Paris Saint-Germain, son ancien club, pour harcèlement. Est-ce que vous trouvez que le capitaine des Bleus exagère?
Ok, très bon débat proposé par Simon Dutin. Vous allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Fred Weiss.
J'ai envie de parler du Paris Basketball. On en a parlé tout à l'heure. Ça dépoussière un petit peu le basket. On avait l'impression que le basket français, en comparaison avec la NBA, c'était très poussiéreux. Avec le Paris Basketball, on est dans une grande ville, alors que d'habitude, c'est des villes de province. On a de l'énergie, on a cette culture street. Donc j'ai envie de dire, est-ce que le Paris Basket ne serait pas le tremplin pour le basket français?
Et si un jour vous avez l'occasion d'aller à l'Adidas Arena, franchement c'est incroyable.
C'est incroyable.
De l'ambiance, du fun, de la street, tu disais. Franchement, c'est un régal. Peu importe, invité ou pas invité, je vous conseille d'y aller parce que la salle est magnifique et je m'attendais pas à prendre une claque pareille et avoir un bruit aussi assourdissant dans cette salle parce que c'est.
Non mais il y a des vrais supporters. Hein.
Ah non mais c'est.
Ils ont créé quelque chose, il y a un cop, etc. Denis, je te promets, je peux pas.
C'est incroyable. Votez pour Fred Weiss si vous avez envie évidemment de parler du Paris Basketball.
Oui, ce jour de. De finale, je m'interroge par rapport à la multiplicité des commotions cérébrales. Alexandre Roma, d'un côté du Stade Toulousain, ne jouera pas parce qu'il a eu une commotion il y a un mois. Oui, mais il avait fait une il y a un mois. Il y a une semaine, il a récidivé. On pensait que ça serait rien. Ça n'a pas été positif. Du coup, il va pas juste finale. Et d'autre côté, Biel Biarré, qui a fait une commotion il y a un mois, je crois, ou non, trois semaines. Il n'était pas apte la semaine dernière. Il a fait un test lundi qui s'est avéré positif. Et là, il va jouer. Je me dis.
Et ça t'inquiète?
Ça m'inquiète parce qu'on ne connaît pas tout. Et finalement, la décision est revenue aux joueurs et au staff médical.
Titularisation finalement de Louis Biel-Biarré, tu voulais en parler. Eh bien, vous votez pour Denis si vous en avez envie. Les copains, Philippe Saint-André.
Il y a une tournée chez l'All Black. En Nouvelle-Zélande, personne n'en parle. On a eu une annonce du 15 de France. Il y a, on va dire, un titulaire. Est-ce que le rugby français respecte les All Blacks? Voilà, parce que les All Blacks, quand ils viennent au mois de novembre, eux, ils viennent avec tous les titulaires.
À chaque fois que tu viens dans cette émission, je sais que ça te prend au cœur et que tu as envie de nous en parler. Parce que évidemment, on en a déjà parlé dans cette émission. Parce que tu ne décolères pas, en tout cas, de cette tournée en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez aller voter. On en parle, les copains. Enfin, le grand gagnant pourra parler de son sujet à 10h45. Et puis sachez qu'un petit peu plus tard, on vous parlera de cette information hier soir Canal+ qui décide de jeter l'éponge. C'est évidemment un nouveau coup de tonnerre sur les droits TV de la Ligue 1, voilà, qui ne va finalement pas diffuser cette Ligue 1 et cette nouvelle chaîne de la Ligue. Ça, ce sera à 11h30. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Napoléon Bonaparte qui a dit un jour « Il faut sauver les peuples malgré eux ».
RMC, le bras de fer GG.
Comme 2 millions de Français, Natacha est interdit bancaire.
La DNCG est au courant de notre modèle. Tout s'est passé comme on avait prévu. Ils comprennent notre système. On a énormément d'argent pour ce club.
Coup de tonnerre dans le football français puisque l'Olympique Lyonnais vient d'être rétrogradé en Ligue 2. Décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion du football français.
Personnellement, pour moi, c'est une honte qu'on soit en Ligue 2. J'aurais jamais pensé ça.
Aujourd'hui, près de 4,5 millions de Français seraient fichés à la Banque de France.
Guys, can I tell you something? This is bullshit.
Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense.
We're not Bordeaux. We're not Montpellier.
Être fiché à la Banque de France, ce n'est pas une fatalité. Communiquer avec sa banque peut être un moyen de l'éviter.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Et s'il est trop tard, surtout, faites-vous conseiller.
John, stop talking. You don't understand anything.
Globally, it sucks. It sucks.
C'est la décision choc de la semaine. Lyon en Ligue 2. La DNCG a confirmé mardi la rétrogradation administrative de l'OL prononcée le 15 novembre dernier, sanctionnant encore et encore la gestion financière du président John Textor. Le séisme annoncé est donc en train de se produire sans que l'on mesure encore aujourd'hui les répliques. Ce club historique de notre championnat est en train de sombrer. John Textor pourrait être viré. Vente panique à Lyon, évidemment. La défense s'organise. Le club a déjà fait appel. Le PSG, cette semaine, a tout de même volé au secours de l'OL en réglant dès maintenant l'intégralité du transfert de Bradley Barcola pour soulager les caisses du club, environ 45 millions d'euros. C'est évidemment un très beau geste de la part du club parisien, d'où notre débat. Le foot français doit-il sauver l'Olympique lyonnais? Dans le coin gauche, la team oui. Il est seul, face à vous. Fred Weiss. Dans le coin droit, la team non. Denis Charvet, Philippe Saint-André, Simon Dutin, sachez que pour l'instant, vous avez l'honneur des suffrages. On a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. 61% pensent comme vous. Non, il ne faut pas tout faire pour sauver l'OL. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier, qui suit de près ce dossier. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous. Salut,
les dernières heures ont encore été mouvementées.
Toutes les options sont sur la table pour sauver l'Olympique Lyonnais d'une rétrogradation en Ligue 2. En coulisses, on s'agite depuis la décision de la DNCG. Ce que l'on peut vous dire, c'est que John Textor a envie de prendre du recul sur la scène française, même s'il n'a pas envie de lâcher le club lyonnais. Il pourrait donc placer un homme de confiance pour les passages devant la DNCG dans quelques jours. Mais devant le gendarme financier, l'OL devra arriver avec un dossier solide financièrement et cela passe par un apport de liquidité sur les comptes du club. Et c'est là que plusieurs solutions existent pour John Textor. La formule d'une injection de cash dans les caisses du club est la solution en cours de réflexion. Pour cela, l'une des options pour Textor serait de s'appuyer sur son ami milliardaire et actionnaire du groupe, Michel Kang, patronne de l'OL féminin. Dans ce cas-là, Textor aurait encore la main sur certaines décisions du club. Autre solution, elle est terrible pour l'américain John Textor, le fonds d'investissement Ares pourrait reprendre la main. Ares avait prêté 400 millions de dollars à Textor pour acheter l'OL en 2022. Ce sont les représentants du groupe américain qui disposent de la solution dans ce dossier. Tous les objectifs demandés par la DNCG en novembre dernier n'ont été que partiellement comblés, croit savoir une source bien informée sur la situation de l'OL. Devant le gendarme financier, l'OL a présenté des comptes avec des sommes qui ne sont pas verrouillées. John Textor n'a jamais caché devant les médias qu'il avance en mode multipropriété et non pas comme un club traditionnel du championnat de France. En clair, la somme est présente à l'instant T sur le compte en question, mais peut tout à fait avoir un autre fléchage pour le futur. En attendant, à Lyon, cette décision de la DNCG continue d'impacter les supporters. Pour beaucoup, la confiance est totalement rompue et les Lyonnais se sentent complètement trahis par la gestion de l'Américain. Les tags dans la ville en témoignent. Le rassemblement des groupes de supporters programmés en fin d'après-midi pourrait bien représenter un point de bascule avant l'audition devant la commission d'appel de la DNCG.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions importantes. Évidemment, avant d'entamer ce débat, le foot français doit-il sauver l'Olympique lyonnais? Donc je le rappelle, pour vous c'est plutôt non ce matin dans les grandes gueules du sport à 61%, 39% avec toi Fred Weiss. Pourquoi oui?
Parce qu'il faut se rendre compte de la situation actuelle du football. Le football est en très grande difficulté, les droits télé en sont une explication logique et une preuve tangible que c'est vraiment très compliqué. Se dire que maintenant, on aurait un club historique qui va disparaître, un club qui, l'année dernière, a fini sixième, mais à 4 points du podium. Donc un club qui a un poids, qui a une histoire, et qui a, en général, un gros budget qui permet justement de créer cette émulation. En plus, quand on pense au championnat de France, on pense au match OMOL qui peut être un des matchs phares de du championnat. Je suis pas en train de dire que du côté de l'OL on est blanc comme neige et je suis pas en train de leur donner un blanc-seing et en disant faites ce que vous voulez. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste que vu la situation et le contexte actuel, perdre un gros comme ça, ça serait absolument catastrophique. Preuve en est, quand Nasser fait cet effort pour Barcola, vous croyez pourquoi qu'il le fait? Vous pensez qu'il s'entend bien avec Textor? Je pense que tout le monde ici sait qu'il s'entend pas bien avec Textor. Par contre, Il sait que avoir un club compétitif dans ce championnat, c'est hyper important pour la valeur du championnat.
Je rappelle juste évidemment que dans ces cas-là, quand il y a, peut-être que vous ne le savez pas, chers auditeurs, quand il y a un transfert avec plusieurs dizaines de millions d'euros, il y a plusieurs échéances. C'est-à-dire que ça peut aller sur 5, 6, 7 ans où on verse 5 millions, 6 millions pour atteindre au final une somme de 45 millions. Jamais dans un transfert, hormis peut-être celui de Neymar au Paris Saint-Germain où il a fallu régler les 222 millions d'euros avec le chèque tout de suite, c'est même Neymar qui l'a déposé. Là, Nasser, pour le coup, beau joueur sur ce coup-là, a décidé de donner les 45 millions d'euros tout de suite et de ne pas attendre 5 ans avant que la somme soit réglée.
Ça
n'a
pas sauvé Lyon pour autant, mais tu me fais rire. C'est quoi la solution? Tu crois que le foot français a les moyens aujourd'hui de sauver l'OL dans la situation où ils sont? Mais d'aucune façon. Et puis, c'est pas le but. Alors, pourquoi ils n'ont pas sauvé Bordeaux? Pourquoi ils n'ont pas sauvé Saint-Etienne?
Parce que Bordeaux était dans une bien pire situation. On ne peut pas comparer les deux situations de Bordeaux et de Lyon.
On parle de club historique. Je suis désolé.
Oui, mais il y a l'histoire. Aussi la situation. Tu ne peux pas comparer la situation de Bordeaux et la situation de l'OL.
Ça va empêcher de laisser.
La preuve, ils sont en Europa League l'année prochaine, l'OL.
Non, mais Bordeaux ça va empêcher le foot français de faire descendre Bordeaux. Mais c'est même pas en deuxième vision, c'est en un peu fédéral.
Denis, le problème, Fred, c'est que tu confonds, parce que tu connais le basket, que tu comprends la NBA, tu confonds franchise et ligue. Nous, en France, le sport collectif, c'est des ligues nationales. Il y a des montées et des descentes, sportivement, mais aussi financièrement. À partir du moment où le président de l'Olympique Lyonnais a mal fait son boulot, Lyon est rétrogradé. Voilà, c'est tout.
Partons du principe que tu as raison. Comment tu expliques que l'UEFA considère qu'ils peuvent jouer en Europa League?
Parce qu'ils sont qualifiés pour l'instant. Après,
ils ont satisfait les questions spécifiques à l'UEFA et on l'a vu dans la prise de parole de John Textor. Il se montre évidemment très rassurant. En fait, juste Fred, moi si je suis pas d'accord, c'est que la question c'est pas ça. Si tu me demandes si Lyon va jouer en Ligue 1 la saison prochaine, moi mon intuition me dit à dire que oui. Mais la question c'est de savoir, le foot français doit-il sauver l'Olympique Lyonnais?
Ça a pas de sens.
Mais parce qu'on est tellement dans une difficulté.
Je rejoins tout à fait Denis. Tu me la racontes dans tous les sens. L'histoire c'est exactement la même chose. Qui a levé le petit doigt dans le foot français pour que les Girondins de Bordeaux, représentent au niveau national dans l'histoire du foot la même chose que l'Olympique Lyonnais
compétitif.
On salue en effet l'élégance du geste du Paris Saint-Germain. Il règle l'échéance. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
Lyon en Ligue 1, c'est extrêmement important.
Mais au-delà des raisons, il y a peut-être d'autres présidents de Ligue 1 qui se disent, c'est vrai que pour les droits télé, pour le spectacle de notre championnat, pour l'histoire, pour ce que tu veux, ce serait bien que l'OL. D'accord, une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Montpellier,
Montpellier,
tous les autres clubs de Ligue 1, que peuvent-ils faire pour sauver l'OL en Ligue 1? Qu'est-ce que les institutions peuvent faire pour sauver l'OL de la... Il y a des institutions.
C'est
une société privée. L'OL, débrouille.
Je vais au-delà. Simon, je vais au-delà. Il y a plein de clubs français qui souffrent aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Mais beaucoup.
Oui, évidemment.
Mais alors, tu vas sauver l'OL et nous, ils vont te dire, vous faites quoi pour nous? Aujourd'hui, tu sais très bien qu'il y a les droits.
Mais malheureusement, on n'est pas dans la situation où on peut sauver tout le monde. Et deuxièmement, l'image actuelle est extrêmement importante parce qu'on est sur des droits de télé, doivent rapporter de l'argent au foot. Et ça n'est pas le cas. Regardez ce qui s'est passé avec Canal, regardez ce qui va se passer, regardez ce qui s'est passé avec DAZN. Il faut se rendre compte que ce championnat, pour qu'il soit intéressant, qu'il y ait des.
Personne ne le conteste, Fred. Tu veux lancer une tombola?
Simon, mon questionnement, c'est pourquoi l'UEFA a des règles et on arrive à les remplir et de l'autre côté,
Fred, on en revient à ce que je disais. À mon avis, Lyon va donner les garanties à la DNCG. La DNCG, on sait qu'ils sont à raison, je pense. Ils sont très tatillons sur les conditions, les garanties que tu leur présentes. Ça a été dit par Nico dans son papier. La DNCG, en gros, elle dit à Textor qu'il faut ranger un peu sa chambre. Il lui dit, regardez, l'argent est là.
Ils disent ah oui, mais l'argent est là, mais en fait il est là sur votre compte, et votre compte il alimente Botafogo, il alimente Crystal Palace. L'argent que vous allez recevoir de la vente de Crystal Palace, oui, ben on va s'en servir un petit peu pour l'OL. Oui,
pour bien expliquer ça.
On veut que tout l'argent soit dans la colonne Olympique Lyonnais, c'est ce que la DNCG dit à
Dexter. Parce qu'il y a des règles à respecter.
C'est vous, il y a des règles à respecter. Ils vont le faire. Ils vont le faire et ça va passer.
Pour bien expliquer ça, juste quelques chiffres à vous donner, même si on va pas se transformer en économiste, mais en gros pour racheter l'OL, eh bien John Textor a emprunté plus de 400 millions d'euros à Arès. C'est ce que nous a dit Nicolas Pelletier dans son papier. On s'est dit la vente de Crystal Palace va rapporter de la trésorerie à John Textor pour pouvoir le réinjecter dans l'Olympique Lyonnais. C'est pas encore validé, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est plus de 200 millions d'euros. Mais les 200 millions d'euros, ils vont servir à John Textor à éponger ses dettes par rapport à Arès. Ouais. Il va injecter dans le club pas plus que 40 millions d'euros.
Alors, comment ils vont faire, alors?
Et ça, je pense que c'est ce qui, justement,
ça inquiète
la DNCG en se disant, bah, il y a beaucoup d'argent, sauf que l'argent va pas servir au compte du club, mais plutôt à éponger, ses dettes personnelles. Vous avez parlé c'était une information hier soir de la Ligue Europa. C'est John Textor qui, sur son compte Instagram, a salué l'accord obtenu par l'OL devant l'UEFA pour disputer la Coupe européenne la saison prochaine, même si, il faut bien le rappeler, dans le lot, hein, les Lyonnais ont écopé d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 50 millions d'euros pour participer à la Coupe d'Europe. Et lui, ce qu'il a déclaré, John Textor, c'est « Nous sommes financièrement viables et bien préparés pour l'avenir ».
Oui, il est détendu, John Textor.
Il n'y a que, entre guillemets, 12 millions et demi qui sont fermes. Le reste peuvent être négociés. C'est un peu différent que 50 millions.
Mais Philippe s'entendait. Mais tu te souviens, il y a 6 mois, il était passé devant la commission, il avait dit « Ouais, tout s'est bien passé ». Et il ne respecte rien. Donc, à partir d'un moment, tu ne respectes pas la règle, eh ben, tu prends un carton rouge. C'est tout à fait normal.
Là, pour l'instant, ils ont pris un carton jaune et on va voir sur l'appel qui est suspensif.
Mais sur l'appel, ils vont passer.
Ça va se passer, bien sûr.
Non, mais il joue, je pense qu'il fait une partie de poker menteur et voilà, c'est tout. Et il pense qu'il va gagner. Tout simplement.
Ah, c'est quand même quelqu'un qui
se croit au-dessus des lois.
Oui, voilà. Il trouve qu'il y a trop de réglementation. Il est américain, il n'est pas habitué.
Oui, dans la culture française.
Et du côté de la DNCG et même des institutions sportives, je pense qu'il agace un peu tout le monde avec ses façons de faire, la multipropriété, le fait d'apprendre à tout le monde,
surtout
à des présidents qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que lui. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il agace énormément de monde et je pense que le message de la DNCG, c'est vous respectez les règles et même dans les protocoles, dans la façon de rédiger les documents, dans la façon de présenter les garanties, je pense qu'il y a des règles dont lui se fiche éperdument et c'est une façon de lui dire écoutez, si vous voulez rester dans le paysage du football français, il va falloir apprendre à composer
un recadrage, j'ai l'impression qu'on va au-delà là, que du simple recadrage.
Oui, je
rejoins Simon, souvent la DNCG fin juin donne comme ça les bons, les mauvais points et donne souvent des rétrogradations, ça arrive chaque année. Et c'est jamais effectif la saison d'après. Alors peut-être que la situation n'est pas dans les comptes, on n'est pas dans les dossiers, peut-être que la situation est encore plus dramatique que les autres, mais souvent, au final, on arrive à un arrangement, on l'espère pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais on voit depuis 2-3 jours un point. C'est la personnalité de John Textor qui dérange. Justement, il veut être écarté. Est-ce que ça, c'est la bonne solution pour passer, pour dire, bon, on a compris ce que voulait nous dire la DNCG, on va faire attention, mais là, le cowboy, on le met un petit peu de côté. Est-ce que c'est la bonne stratégie?
C'est la bonne stratégie. Philippe. Mais pourquoi? Parce que aux États-Unis, ils ont pas ces règles-là. Nous, en France, c'est très, très bien organisé, que ça soit la Ligue nationale de rugby, de foot, de tous les sports. Et t'as un cahier des charges, il faut le respecter à la lettre. Lui, pour l'instant, il ne le respecte pas. Et donc là, ils l'ont tapé sur les doigts. Il va mettre quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils vont rentrer dans les clous, mais pour moi, je trouve que la DNCG, elle fait le boulot, elle fait son job.
Oui, elle met un coup de pression, mais comme je disais, ils vont rester en Ligue 1 parce qu'il faut que l'OL soit en Ligue 1.
Bon, nous allons suivre attentivement, évidemment, ce dossier. N'hésitez pas à aller sur rmcsport.fr pour avoir toutes les dernières informations et on en reparlera forcément tout au long de l'été dans les grandes gueules du sport parce que, faut le savoir, c'est quasiment la seule émission du PAF qui ne s'arrête jamais. Les grandes gueules du sport seront présentes le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Denis me fait des grands signes, comme s'il devait arrêter un Boeing 747, là. Non, Denis, oui, j'ai bien compris que pour l'instant, tu étais en tête dans les contre-attaques.
C'est serré.
Avec Louis Biel-Biarré, c'est le débat que tu as proposé. Tu as 29%, mais Simon est juste derrière avec son Mbappé PSG à 27%. Vous pouvez aller voter, ce sera dans une vingtaine de minutes. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport et nous allons revenir à cette finale du top 14. Le sentiment de revanche des Bordelais, de l'UBB. Est-ce le meilleur moteur? Oui ou non? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi.
On oublie que les sportifs. Les sportifs ont un cœur d'homme.
Les grandes gueules du sport.
Et souvent, il y a un cœur de sportif, mais il y a un cœur sportif dans un, cœur, dans un corps d'homme. Et avant tout, il y a un cœur.
Jean-Christophe Drouet.
C'est vrai qu'on l'oublie souvent, et à juste titre d'ailleurs.
Il est obligé.
Albrazaïs, notre réalisateur, c'est dans son contrat. Hein. Il est obligé de mettre comme ça des petites cartouches de temps en temps.
Je lui tirerai l'oreille.
Oui, tu peux y aller, sans problème. Tu seras invité en régie. Alors, cette émission est folle, hein. C'est fou, hein, les GG contre-attaque. Vous êtes très nombreux à voter sur le compte X des grandes gueules du sport, et ça change de main à chaque fois. Et il y a quelques instants, Louis Bielle-Biarré, débat proposé par Denis Charvet, était en tête. Maintenant, c'est Mbappé contre le Paris Saint-Germain. Mbappé qui a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre du Paris Saint-Germain. 29% pour l'instant, tu es en tête, mon cher Simon. Le Paris Basketball est dernier, 19%, 25%. Mais t'es encore dans le match, cher Philippe, pour cette tournée en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez aller voter, on en parle dans un peu plus de 10 minutes maintenant. En France, le 49-3 rend fou, vous le savez, à Bordeaux, c'est le 59-3. 59-3, c'est le score de la dernière finale. Ce qu'on appelle une attaque de papier, c'est ça?
Un peu d'écriture.
Oui. Écoute, comme ça, à la main, comme ça. Regarde, je te le fais, hop, voilà, j'écris un petit peu, voilà, je te sors une petite... Bravo. Bon, bref, 59-3, c'est donc le score de la dernière finale de Top 14 face au Stade Toulousain. C'était il y a un an, jour pour jour, le 28 juin 2014, ce soir-là. L'UBB a pris la marée comme jamais, 9 essais à 0, les Bordelais étaient ressortis les fesses rougies du stade Vélodrome. Un an plus tard, Christophe Lossuc, l'entraîneur de la défense, qui avait forcément passé une très très mauvaise soirée, il réagit. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Des revanches, il y en a sans arrêt. Lui, on se rencontre tous les ans, depuis 50 ans, les mêmes clubs, il y a toujours une revanche. Hey, on les a battus trois fois cette année. Ils vont jouer, oui, ok, c'est les favoris, ils sont champions d'Europe, ils nous ont battus trois fois, on est les petits. C'est pas vrai, ils sont sur 7 finales consécutives gagnées. Ils ont je sais pas combien de titres de plus que nous. Ils nous ont mis 60 points l'an dernier, donc les deux équipes ont envie de gagner, les deux équipes ont envie de revanche, et je suis incapable de faire un pronostic et de vous dire si on est favori ou pas.
Et j'ai dit le 28 juin 2014, évidemment le 28 juin 2024, il y a un an, jour pour jour, vous avez rectifié tout seul, j'imagine. Alors ce sentiment de revanche des Bordelais, est-ce que c'est le meilleur moteur pour attaquer cette finale? Oui ou non, Simon Dutin?
Non.
Fred Weiss?
Oui.
Denis Charvet?
Non.
Philippe Saint-André?
Non.
C'est non. Ok, il est encore tout seul, Fred Weiss. C'est bon, ça, tu vas te régaler avec les amis rugbyman. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Bordeaux qui sera ce soir au Stade de France, évidemment, Nicolas Paolorsi. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Alors, c'est vrai que depuis le début de la semaine, les Bordelais n'ont que ce mot à la bouche, la revanche.
Alors c'est plus les journalistes qui parlent de revanche, clairement, mais non mais c'est vrai, mais
ou les supporters.
Nous les premiers à RMC, parce que c'est sûr que ça fait partie de l'histoire de ce match, et vous allez voir que ce match est encore présent avec les stigmates de cette défaite qui sont encore présents. On va réécouter Christophe Lossuc. C'était un petit peu après la punchline des GG que vous venez de diffuser dans la conférence de presse. Il était assez chaud, Christophe Lossuc, quand on parlait de cette défaite.
Ça fait mal à tout le monde. On a tous souffert, déjà parce qu'on s'est senti humilié. Ça fait mal au cœur de voir des gamins dans cet état, parce qu'ils méritaient pas ça. J'espère que ça, ils l'ont dans un coin de la tête. L'entame de la saison, ils sont déjà revenus avec cette cicatrice, avec cette envie de rattraper, de montrer un autre visage. Et quand on a gagné à Toulouse, ça a été déjà quand même une première bonne réponse, de juste montrer, mais voilà, on est passé pour des nazes, tout le monde a vu qu'on a pris 60, le Moscato chaud, tout ça, tout le monde en a tout pris, on en a pris de tous les côtés, ce qui est normal, donc c'est humiliant, c'est blessant, et ça reflétait pas non plus de la saison qu'on avait fait précédemment.
Tu sens dans les propos de Christophe Lossuc que ça les a marqués, toutes les critiques derrière qui ont suivi cette finale. Et c'est vrai que ce fiasco, il reste gravé. On en a parlé avec le talonneur Maxime Lamotte, qui a marqué 3 essais la semaine dernière en demi-finale. Mais ce qui est assez fort pour Bordeaux cette saison, c'est la faculté qu'ils ont eue à se servir de cette désillusion, tout en l'évacuant très vite. On écoute Maxime Lamotte.
Moi, c'est un de mes pires souvenirs rugbystiques. Donc évidemment que ça reste gravé dans nos têtes. On se l'était dit à la fin de cette finale l'an dernier. Oui, on a pris une rouste, oui, on a pris une humiliation, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de rebondir, et on a construit autour de ça. On a su réagir cette année en gagnant cette finale de Coupe d'Europe. Je pense qu'on en a fait une force.
Voilà, il y a les fantômes qui continuent un petit peu de hanter les Bordelais, des fantômes du Stade de France de l'an dernier. Malgré tout, le manager Yannick Bru, ça c'était hier, lui ne veut absolument pas entendre parler de revanche.
On a bien compris que ce match a été présenté comme une revanche ou comme une revanche de la revanche de la revanche. On n'a jamais parlé de ça parce que la revanche, ça appelle à la rigidité, à la colère, à des choses qui aveuglent un petit peu. Et je crois qu'au contraire, dans une finale, ce qui est important, c'est d'avoir les yeux grands ouverts. Il va y avoir beaucoup d'à côté. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de rentrer sur cette finale avec un contexte émotionnel trop négatif.
Voilà, ils veulent maîtriser leurs émotions, c'est ce que disait aussi le capitaine Maxime Lucu, pour ne pas passer une nouvelle fois à côté d'un moment qui peut faire rentrer l'UBB dans l'histoire. Je vous rappelle juste que les Bordelais visent le doublé, bien évidemment, après leur victoire en Champions Cup, et Toulouse, de son côté, vise un troisième bouclier de Brennus consécutif.
Merci beaucoup, Nicolas Paul. Alors, si tu restes avec nous pour ce débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, on vous attend, supporters bordelais. Le sentiment de revanche, est-ce que c'est le meilleur moteur pour cette finale? C'est non, Philippe Saint-André. Pourquoi non?
Ben parce que cette nouvelle génération, il fonctionne pas comme ça. Faut plus se concentrer sur ton jeu, sur tes points forts, sur ta préparation dans la semaine, de pas bouffer trop d'énergie avant le match, dans le plaisir, dans les sourires, dans la qualité de l'entraînement. Voilà, ils sont dans une phase positive, ils sont dans une phase où leurs joueurs cadres, Jalibert, Lucus, marchent sur l'eau, et donc ils vont préparer ce match avec énormément de confiance, énormément de détermination, et ils vont pas penser à la raclée ou à la branlée historique de
c'est une erreur justement d'y penser et de vouloir
mais surtout avec cette nouvelle génération. Alors il y a 15 ans, 20 ans, on en parlait et tout, on se remontait la tête là-dessus. Maintenant, c'est fini, on prépare les matchs avec une vision complètement différente.
Mais je suis très surpris. Je suis très surpris parce que justement, j'allais dire à Philippe, est-ce que ça serait pas un de tes axes de motivation avant le match, en disant, les gars, vous rappelez pas, on a été humiliés par ces gars, maintenant à nous de nous venger un petit peu. Et la revanche, en fait, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup surpris dans ce qu'on a entendu tout à l'heure. La colère, ça t'aveugle. Mais évidemment que la colère, ça t'aveugle. Mais avoir un esprit de revanche, c'est pas de la colère. C'est justement être froid, méthodique pour essayer de faire oublier ce qui s'est passé. J'ai vu j'ai entendu aussi qu'il fallait laver l'affront. Évidemment, laver l'affront, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as envie de la revanche, t'as envie de nettoyer ça, t'as envie de montrer que ce que t'as montré avant, c'était pas ça, que ton équipe, c'est vraiment ce qui est actuellement, et que tu vas faire oublier ça. Mais c'est juste la définition de la revanche, en fait.
Mais non, mais c'est le sens que tu donnes à cette revanche. La revanche, ils l'ont déjà gagnée quand en demi-finale à la Champions Cup.
Mais tu peux pas comparer. En plus, c'est vous qui m'avez dit que c'était plus important. Le top 14, que ça. Donc je comprends
d'abord,
plus.
D'abord, ils ont joué à Marseille l'année dernière. Ça va être au Stade de France avec des joueurs de Bordeaux qui ont pour la plupart joué déjà au Stade de France, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt.
J'ai déjà entendu cet argument dans la semaine, j'aimerais bien qu'on m'explique.
Et le week-end dernier, on s'est moqué de moi.
Ça change quoi, que ce soit au Vélodrome?
Je pense que le décorum, c'est important.
Mais si, mais le décorum,
je
le connais, ce stade.
Mais ça reste la même équipe en face, en fait. Je ne comprends pas du tout, en fait, Denis, non plus.
C'est une finale. Mais en plus, je suis d'accord avec Yannick Bru, il faut pas faire le trop plein d'émotions, parce qu'une finale, c'est dans le détail, il faut l'appréhender, cette finale, c'est une maîtrise absolue, en fait.
Mais justement, ça donne pas ce surplus de motivation, truc en plus.
Mais tu vas pas ton levier, ça va pas être axé sur une revanche, parce que la force du bébé, c'est justement d'avoir pu oublier ce match. C'est-à-dire qu'ils ont fait table rase, ils sont repartis sur une nouvelle saison, ils ont battu trois fois Toulouse.
Mais ils ont
cautérisé. C'est ça que tu comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, pour eux, c'est une nouvelle aventure.
Voilà, ils arrivent avec des certitudes au niveau du jeu, au niveau de leur préparation physique, au niveau de leur fraîcheur physique, au niveau de la qualité de leur effectif. Donc voilà.
Donc ils en mettent une à Toulouse, ils seront pas ravis de leur rendre.
Ah, mais si.
Ils
seront ravis par rapport à cette année, à la construction de la saison, voilà. Et à la progression rapport à la saison dernière. On est maintenant dans une génération où il faut être beaucoup plus positif. C'est toi, ce que tu parles, c'était le management vertical à la fin. Regarde celui-là à l'ancienne et tout. Ça ne fonctionne plus du tout avec cette nouvelle génération.
Le surplus de motivation, je suis pas en train de dire qu'il faille.
Ça annule.
Je pense exactement le contraire. Je pense que ça te motive un peu plus. Et justement, une finale, ça joue sur des détails, et ce petit surplus de motivation, ça peut te suffire à gagner.
Avant de donner la main à Simon, qui n'a pas encore parlé, mais il bouillonne, je le vois dans son coin.
Si,
tu bouillonnes. Dis que tu bouillonnes. Oui, je bouillonne.
Oui, je bouillonne.
Tu vois qu'il bouillonne. Allez, Philippe, est-ce que ça existait avant, même dans les vestiaires de foot, affiché sur les placards du vestiaire, une phrase par un joueur, par un président, tout ça. Afficher le résultat, c'est une mauvaise idée ? Tu rentres dans le vestiaire, tu vois 59-3, c'est une mauvaise idée ? Très mauvaise
idée.
Oui,
c'est fini. Je vais juste
c'est les méthodes
te dire,
à la papa.
Avec Montpellier, quand on a été champion de France en 2022 contre Castres, ils avaient le traumatisme d'avoir perdu en finale contre Castres quelques années auparavant, alors qu'ils étaient archi favoris. J'en ai pas parlé une fois dans la semaine. C'était une autre aventure, une autre équipe, c'était notre...
Non, mais c'est un problème négatif, parce que t'étais favori, c'est pas
que tu en parles. Ah oui, après, on a parlé de Vincent, qui nous prenait pour des pompes à roulettes, qui disait que les avants avançaient pas, donc bien sûr, ça.
Non, mais t'as trouvé d'autres sources de motivation, mais t'as évacué le côté traumatisme.
Évacué complètement. J'en ai pas parlé une fois de la saison.
Ben, vous aviez fait le plus dur en demi-finale, faut dire.
Comment?
Vous aviez fait le plus dur en demi-finale.
En gagnant Bordeaux.
Simon.
Je pense que l'envie de gagner, l'envie de remporter ce premier titre dans l'histoire moderne,
de faire le doublé,
la fusion exactement de se hisser au rang des équipes légendaires qui ont fait le doublé, c'est ça le moteur. Mais je pense que le sentiment de revanche, c'est pas le bon carburant, parce que le sentiment de revanche, il te renvoie à un échec, il te renvoie à un traumatisme, il te met quelque chose de négatif,
un traumatisme que tu veux effacer
dans l'esprit, et je pense que c'est pas un bon levier, ça entretient ta peur de l'échec, ça entretient la crainte d'être jugé, j'en parlais tout à l'heure, la crainte d'être considéré comme l'équipe de la loose, l'équipe flamboyante jusqu'au
mais
moment
non, au contraire,
où
tu veux l'effacer, parce que t'as un gros ego
après là je parle sous le contrôle de Philippe. Ça détourne l'attention, je pense, de ce qui reste le principal, les fondamentaux techniques, la tactique, le plan de jeu, la forme du moment. Et je pense que joueurs et staff bordelais ont eu raison de, même si forcément ça trotte dans un coin de leur tête, à rappeler l'ampleur du score, c'est un vrai traumatisme. Bon, même s'ils perdent ce soir, statistiquement, il y a quand même très peu de chances qu'ils prennent la même pilule que l'an dernier. Je pense que il faut regarder devant et pas derrière lorsque
t'as pas envie de mettre d'image négative dans une préparation d'une finale. Voilà.
Bah, Nicolas Paul Orsi.
C'est une image très positive de dire j'ai envie de leur mettre la même.
Nicolas Paul Orsi.
J'ai fait sursauter Wilfried Templier, pardon, en intervenant dans la chambre du chef Templier. Il est à côté de moi, il a eu peur. Non, ce que je voulais dire, ce qui a tout changé, les amis, c'est que l'UBB a gagné il y a deux mois. L'UBB a déjà gagné. Si on avait été sur un club qui était à la recherche de son premier titre, qui avait cette pression-là, se parasiter avec cette revanche, ça aurait été néfaste. Mais malgré tout, là, j'entendais Simon qui disait oui, tu peux rentrer avec de la peur si tu focalises sur cette. Mais là, les Bordelais, ils ont absolument pas peur. Ils les ont battus en demi-finale de Champions Cup. Ils ont gagné un titre sur la dynamique. Ils se sentent parfaitement bien sur l'impression laissée en demi-finale. Même s'il faut toujours se méfier des impressions et des demi-finales, on a l'impression que l'UBB est la meilleure équipe potentiellement. Alors, il y a pas une différence d'écart entre l'UBB et le Stade Toulousain qui saute aux yeux, mais sur la dynamique elle est plutôt bordelaise. Donc moi je pense que c'est vraiment, même si dans les discours ils se préparent pas avec ça, ça reste un moteur, et je suis persuadé qu'entre les joueurs, bien évidemment, que cette revanche là quand même ils vont l'utiliser, et les gars on va pas se laisser marcher dessus comme l'année dernière pour connaître deux trois compétiteurs dans cette équipe. Je pense pas que ce soit le discours, la causerie de Yannick Bru soit centralisée sur ça, mais ça fait partie, comme dit Fred, de ces 5-10% là de levier que tu peux actionner pour te transcender et pour basculer dans un état
venir des joueurs dans le vestiaire 3-4 minutes avant le coup d'envoi.
Ça ne viendra pas du staff.
Ça ne peut pas venir du staff. Je vais vous ramener un an en arrière. Nous sommes donc le 28 juin 2024. Yannick Bru arrive en conférence de presse. Il vient d'en prendre 59 par le Stade Toulousain. Et voici ce qu'il dit.
Non, mais c'est dur pour les joueurs aussi, parce qu'ils méritent pas ça, mais voilà, je crois que chaque action on a pris essai dans les 20 dernières minutes. Donc du bord du terrain on souffre avec les joueurs, on se tait, on accepte le camoufler, et on se dit qu'on va se servir de ça pour revenir plus fort un jour. Mais on est aussi très envieux de ce que nous a proposé Toulouse aujourd'hui. On s'est dit qu'on n'est pas à ce niveau et qu'il y a forcément des choses qu'on fait moins bien qu'eux, et que ça doit être un moteur pour la suite, tout simplement.
Non, mais et le moteur, ça a été se reconstruire sur la défense.
Oui, mais on va se servir de ça, il dit, mais pas dans un an pour si on les rejoue. Il dit ça, c'est maintenant.
Et puis il y a un éloignement, évidemment, qu'ils ne l'oublieront jamais de leur carrière, cette défaite, cette déculottée, cette raclée, vous choisissez le mot que vous voulez. Évidemment qu'ils s'en souviennent. Il y a des bruits, il serait vraiment complètement incompétent s'il s'appuyait pas sur ce qui n'a pas marché, sur les erreurs qu'ils ont faites, sur ce qu'il y avait à améliorer par rapport à ce qu'ils ont produit en finale.
Déjà, évidemment, son premier objectif, c'était de finir premier ou second pour s'éviter un barrage.
Voilà. Évidemment, donc déjà, tu fais bien de rappeler qu'ils arrivent un petit peu plus frais. J'en termine juste en disant que je pense que le sentiment de revanche, il a plus aidé Bordeaux à aller faire l'exploit Ernest Vallon en début de phase régulière.
Plutôt que là.
Il a plus aidé Bordeaux peut-être en demi-finale de Coupe d'Europe qu'il ne va les aider, parce que je pense que là ils sont focalisés sur un objectif et ils se sentent forts, ils se sentent différents de l'équipe qui s'est inclinée l'an dernier.
Philippe, c'est pas Philippe Saint-André, mais il y a un Philippe qui nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat. Bonjour Philippe, supporter du LBB.
Oui, bonjour messieurs, supporter de Philippe Saint-André aussi, hein, qui est très juste. Hein,
on est tous supporters de Philippe Saint-André.
Ah oui. Un homme charmant. Bon, et la revanche, ça sert à rien, parce que il y a un truc dont vous avez pas parlé. Moi qui me fait un peu peur, si tu rentres avec un esprit de revanche, t'es trop agressif, tu te déconcentres, tu fais des fautes, tu prends un jaune, tu prends un rouge et là.
Non, mais tu peux faire une revanche intelligente, hein, Philippe. C'est pas grave, tu vois, tu peux réussir.
Alors lui, il est prêt à tout, hein. Quelle mauvaise foi, ce Fred Vest.
Ouais, je suis d'accord. Il est connu pour ça. Vas-y, termine, Philippe.
Non, mais on a suffisamment montré cette année que c'est oublié. L'UBB propose un jeu séduisant. Je pense que d'ailleurs, la France du rugby, on a un peu marre de l'hégémonie du Stade Toulousain, qui est diminué par les blessures, etc., on le sait. Il y a du jeu, il y a du génie, il y a du talent. On a envie de voir l'UBB qui rentre serein sur le terrain, qui impose son jeu et qui gagne. Point. Voilà. L'ultra-domination dans les sports courts, même dans les sports individuels, c'est chiant. Le PSG qui va gagner 20 titres, c'est chiant. Pogacar qui va gagner 10 Tours de France, c'est chiant. On aime le sport parce que, justement, ça bouge. C'est pas toujours les mêmes. Et là, cette année, l'UBB a tout pour gagner, ce qui veut pas dire qu'ils vont gagner, parce que
ça a
suffisamment retard.
Philippe, on te rappellera quand l'UBB aura gagné 5 titres de suite et qu'on dira vivement qu'on passe à autre chose. J'espère que tu seras d'accord. Merci d'avoir proposé le 32-16. Tu es un fidèle de cette émission. Merci, en tout cas, d'être avec nous tous les matins de 9h à midi. Sachez, dispositif exceptionnel. On remercie Nicolas Paolorsi. Ce soir, en direct du Stade de France, à partir de 20h, Pierre Dorion, Wilfried Templier, Denis Charvet, Nicolas Paolorsi, au commentaire de cette finale du Top 14, 20h, 23h30 en direct du Stade de France. Ça va être une soirée de feu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Il y a un vainqueur, mais ça a été extrêmement serré. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 avec Philippe Saint-André, Fred Weiss, Denis Charvet, Simon Dutin. À partir de 11h, on parle des revenants. Les champions du monde 2018, Pogba, Giroud qui débarquent en Ligue 1. Est-ce que ces champions du monde sont-ils encore des bonnes affaires? On se posera la question. Et puis 11h30, évidemment, un dossier très important. Canal+, nous l'avons appris hier soir dans une interview donnée à nos confrères de l'équipe. Interview du patron de Canal+, Maxime Saada. Canal+, jette l'éponge avec la chaîne de la Ligue. On va tout vous expliquer, évidemment. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, mes GG.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Dernière place pour le Paris Basketball, malheureusement.
J'aurai ma revanche.
18%. On embrasse évidemment tous les copains du basket, mais bon, ça ne prendra pas ce matin. Troisième place pour Philippe Saint-André, 23%. Les Bleus, le 15 de France, manque de respect aux Néo-Zélandais avec cette tournée. Le rugby français, en tout cas, on parlera de cette tournée. Rassure-toi, qui commence la semaine prochaine. Merci, mon Philippe. Deuxième place pour Denis Charvet, 27%. Louis Biel-Biarré, est-ce que c'est trop dangereux de le faire jouer ce soir? C'est déjà bien une deuxième place.
Oui, c'est bien. C'était un beau sujet. J'ai été grillé par Philippe.
Bravo les gars. Première place, 32% pour Simon Dutin. Le nouveau conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, nous l'avons appris cette semaine. Une information judiciaire a été ouverte. Kylian Mbappé qui a déposé plainte pour harcèlement moral contre le Paris Saint-Germain. On t'écoute, Simon Dutin.
Eh ben merci, parce que tu as fait le job pour moi. Je n'ai plus grand-chose à ajouter, on l'a appris. Hein. Donc c'est le parquet de Paris qui a fait cette annonce. Information judiciaire, une enquête, hein, une enquête policière. On va aller fouiller dans les documents pour savoir si l'attaquant du Paris Saint-Germain, à l'époque, a été donc victime de harcèlement moral. Il reproche donc à Paris de l'avoir placé dans ce qu'on appelle communément le « loft ». Hein, voilà, les joueurs un petit peu à l'écart. On se souvient qu'il avait raté notamment l'ouverture de la saison face à Lorient, je crois, de mémoire. Et bon, il avait fini par réintégrer l'équipe. Voilà, il accuse le PSG de tentative d'extorsion à la signature. Bon, voilà. Et personnellement, moi, je, en tant qu'observateur, j'ai trouvé très pénible la dernière saison de Kylian Mbappé à Paris, ce qu'on a pu qualifier de cirque permanent. Ça a été tout pour lui, focaliser l'attention au détriment, c'est ma conviction, de l'avis du groupe et mécaniquement des performances parisiennes, peut-être notamment en Ligue des Champions. Donc, j'en ai ras-le-bol, c'est le cirque qui se répète. Je le disais, on parle communément de loft. Si on en parle, c'est que c'est une pratique qui existe dans les clubs. On sait que ça peut être un moyen de pression de temps en temps de la part des directions des clubs, des staffs sur certains joueurs pour, voilà, soit les inciter à quitter le club, soit les inciter à re-signer.
Mais dans le monde de l'entreprise, ça existe aussi, hein. Quand on te met dans un placard, c'est aussi pour te pousser un peu à partir.
Non, et je sais de quoi je parle. tu fais bien de le rappeler. Je te remercie. Non, mais bon, tout simplement, en fait, au-delà de, je juge pas le fond de l'affaire. Je laisse ça évidemment à ceux qui vont l'instruire. Je trouve ça un petit peu personnellement agaçant. Je pense que Kylian Mbappé s'honorerait à laisser derrière lui cette histoire et en tout cas tout ce qui pourrait représenter, voilà, l'aspect conflictuel de sa relation avec Paris. Voilà, qu'on se souvienne de lui pour ses accomplissements sportifs, ce qu'il a laissé comme marque sportive. Mais stop, il y en a marre. Voilà, je trouve qu'il exagère un petit peu, qu'il aurait pu se passer de ce nouvel épisode. Et je voulais demander l'avis à mes co-débatteurs. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il a raison de défendre ce qu'il pensait de ses intérêts, ou est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il exagère un petit peu ?
Sachez que deux juges d'instruction ont été désignés, que donc Kylian Mbappé a porté plainte à Paris le 16 mai dernier pour donc harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, dénonçant, donc tu l'as rappelé, son placement à l'été 2023 dans le loft du Paris Saint-Germain. On se souvient que Kylian Mbappé était arrivé en conférence de presse pour dire c'est bon, tout est réglé, finalement je vais pouvoir jouer, et lui maintenant il dit que c'est une tentative d'extorsion à la signature.
Moi, je suis pas choqué du tout, dans la mesure où c'est un bras de fer entre le PSG et Mbappé. C'est inévitable. Et on connaît pas tous les tenants et les aboutissants, Simon. Donc, à partir de là, c'est très difficile d'avoir un jugement. Mais malgré tout, je suis désolé, il y a des faits qui sont passés. Le loft, il y a plein de faits qui sont...
Pourquoi ils se réveillent le 16 mai dernier?
Parce qu'ils n'ont pas arrivé à trouver... C'est un bras de fer. Ils n'ont pas réussi à trouver une sortie. Et maintenant, c'est la justice qui va trancher. Mais moi, je ne suis pas du tout choqué. Après, c'est vrai que de dire...
Moi c'est le timing qui me choque un peu.
Tu sais quoi, c'est étonnant. Moi, ce n'est pas le timing. Je pense que tous les gens sont choqués par le mot harcèlement. Oui. C'est plus ça qu'autre bien chose. Sûr. Mais c'est pas. Après, non, c'est normal que Denis continue à se battre.
Il a donc porté plainte deux semaines avant la finale de la Ligue des Champions.
Qui demande les salaires qui n'ont pas été payés, ça c'est normal. Mais d'aller sur de l'harcèlement moral, je trouve que c'est too much. Voilà.
Oui, mais peut-être qu'il est obligé d'en passer par là, Philippe. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile de porter un jugement. Il me semble.
Oui, mais moi je te rejoins. C'est vrai que c'est difficile et c'est pas parce que c'est un footballeur que c'est pas un salarié comme un autre. Juste. C'est vrai que l'image qu'il renvoie à ce moment, ça fait vraiment, enfin, c'est pas bon, parce que le timing est mauvais.
Ouais, mais
parce que
ça fait rageux.
Parce que, oui, mais sauf qu'à un moment, il devrait prendre de la hauteur et se dire, OK, effectivement, il a pu se passer ça. Je suis Kylian Mbappé.
Est-ce qu'il peut prendre de la hauteur? Je suis pas sûr. Tu l'as dit, Philippe. L'enjeu qu'il y a économique, elle est énorme pour lui.
Non mais
on parle de 55 millions.
Ouais, bien sûr, tu peux réclamer ça.
Tu peux aller sur les salaires impayés, mais aller sur de l'harcèlement moral.
Oui, mais juridiquement, parce qu'il est obligé d'en passer par là.
Je suis pas sûr. Il est allé au loft, il est revenu, mais comme tout sportif de haut niveau, à un moment donné, ben t'es en groupe, tu fais du physique et puis tu reviens.
Oui, mais là, on parle d'une affaire entre avocats, là. C'est des trucs tellement pointus. Je suis pas sûr que.
C'est-à-dire que tu penses qu'il est éloigné de tout ça? C'est ses avocats qui ont dit qu'ils ont intérêt à faire ça?
Ah ben oui, le président du préserve.
En termes d'image, c'est compliqué quand même. franchement, il faut imaginer la personne lambda qui vit ça peut-être dans son boulot.
Oui,
c'est difficile. C'est
pas normal. Merci. Je suis d'accord.
C'est pour ça que je regarde Simon, mais c'est vrai que c'est très difficile en termes d'image, en termes de timing. Mais je me répète, c'est pas parce que c'est un footballeur que c'est pas un salaire énorme.
En termes d'image, c'est catastrophique.
En termes d'image, tu peux que juger ça catastrophique.
On est d'accord. Sur le fond, on est d'accord.
Et ben voilà, tu as le sentiment des GG, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, pas du tout, oui.
Parfait, les amis, c'est évident. On va suivre ce dossier, il y a un litige financier, vous le savez, à hauteur de 60 millions d'euros, Mbappé qui réclame des primes, hein, qui n'ont pas été payées selon lui. Ça a fait beaucoup de remous, et désormais, il y a donc cette plainte pour harcèlement moral déposée par le clan Kylian Mbappé. 10h56, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de Pogba et d'Olivier Giroud. Ils reviennent, oui, ils vont jouer en France, en Ligue 1, l'un à Monaco, l'autre à Lille. Est-ce que ce sont encore des bonnes affaires? On se posera la question. À tout de suite sur RMC, les GG ne sont pas d'accord. Évidemment, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.